des choses qui sont pour nous devenues proches, devenues des choses habituelles. Et donc, il faut se dire que ce n'était pas vraiment habituel, et que c'est leur vie qui a montré la norme. Un tout petit peu plus de vous, pas beaucoup. Et je me rappelle d'une époque, c'était pas évident, où les idées du rabbi, c'était pas une évidence. Si on essaye de réfléchir les idées que le rabbi a mis en avant, on voit qu'une idée à laquelle le rabbi a perdu beaucoup d'importance, c'était Geon Yaakov. Il y avait beaucoup dans le sikhot du rabbi, Geon Yaakov, la fierté du judaïsme, la fierté d'être juif. Moi, je me rappelle un discours de Wiesel qui m'a beaucoup marqué personnellement. C'était un an après Guinée Tamouz. Il y avait une commémoration, il y avait un chat en Chicole. Je me rappelle que Elie Wiesel, il a dit, on dit que Hitler, le marteau, il a tué 6 millions de juifs. Il a dit que Hitler, il a tué la totalité du peuple juif. Parce que tous ceux qui n'ont pas été tués physiquement, ils ont été tués réellement. Et après la guerre, ils ont rasé les gens, le tout pour cacher leur judaïsme. Et donc, Elie Wiesel, il disait pour moi, le rabbi, c'est celui qui a fait trier comme utile du peuple juif. C'est lui qui a pu redonner à un juif la fierté du judaïsme. Je marche dans la rue, j'ai pas honte, j'ai pas honte pourquoi moi je vis encore. Pourquoi je suis pas mort? Pourquoi on m'a pas tué? Pourquoi moi je rase les murs en essayant qu'on me voit le moins possible. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, et quand on pense à des vues d'esprit, moi, je me rappelle des gens qui venaient, les chassidines polonais, ils venaient à la synagogue, je sais pas, ils avaient honte de marcher avec un surtout dans la rue. Parce qu'il ne faut pas qu'on remarque que quand vous avez un surtout à la maison, un surtout à la choule, Quand ils sortaient de la maison, ils mettaient un costume, ils allaient comme tout le monde dans la rue, et quand ils arrivaient à la choule, ils enlevaient le costume, et, parce qu'il ne faut surtout pas qu'on. On parle vraiment de chassidim polonais, de gens qui vivent le judaïsme vraiment au quotidien. Donc, ça, c'est la première idée que le rabbi a donnée au peuple juif, et même si, grâce à Dieu, de nos jours, c'est devenu évident, et c'est important de réfléchir à ça. Vous connaissez tous l'histoire que Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev, tous les matins, il se levait, il disait « Shelo Hassan Goy » et il se mettait à danser. Donc, les gens disaient « Mais là, tu danses, je suis pas un goy. » Je n'ai pas le titre que ça. Pour pas aller danser. Dieu, il aurait pu faire de moi un goy, je suis pas un goy. Ah. On lui a dit, mais regarde, t'as dansé hier, avant-hier. Mais non, je ne connais rien. Chaque jour, c'est une joie nouvelle. J'aurais pu me réveiller le matin et être un goy. Et voilà, Dieu, il m'a choisi, Dieu, il a fait de moi un juif. Ça veut dire que Dieu, il a mis en moi une partie de lui. Le fait que chacun il a en lui une partie de Dieu, c'est le plus haut niveau de fierté qu'on peut imaginer. Donc, ça veut dire qu'il faut exprimer cette fierté. Pas juste une des valeurs qui existent comme ça, mais qu'après, profondément, dans la vie de chacun, voilà, il y a des choses à penser, il y a des choses qui ne vont pas. Mais ce Geon Yaakov, ça doit être le sentiment dominant de la personnalité. Après, quand on voit un autre juif, alors ce juif-là, il a en lui une partie de Dieu. Regardez quelqu'un et dites-vous, il a une partie de Dieu en lui. Vous ne le voyez pas de la même façon. Vous voyez différemment parce que des fois il fait des choses, mais tout ce qu'il peut faire qui va contre la volonté de Dieu, c'est uniquement quelque chose de superficiel. Profondément, il a en lui une partie de Dieu. Et voyez ce juif-là différent. vous parlez différemment, le simple fait que vous le regardez différemment, ça fait qu'au moment où vous lui parlez, il écoute différemment vos paroles. Alors c'est ça ce que le rabbi nous a appris. Et ça, c'est énorme. Voir les vidéos de... Des vidéos de du rabbin. Les gens qui viennent de tous les horizons, ils prennent le temps de parler avec chacun et de s'intéresser à chacun. Vous avez vu cette vidéo qui est diffusée largement? On voit un bonhomme qui vient et dit: voilà, moi je suis chrétien, mes parents sont juifs. Tous les deux, mais moi je suis chrétien, je suis convaincu, et machin, et tout, et je veux convaincre des juifs. N'importe qui, il aurait pris le bonhomme, il aurait sorti. Il aurait pris le temps de parler avec lui, mais vous êtes juif, vos parents ils sont juifs, quand on est né juif, on reste juif toute sa vie. Imaginable, quelqu'un il vient, il dit: moi je suis convaincu, de toute façon. Vous n'arriverez pas à me convaincre du contraire. Au contraire, moi je suis là pour essayer de convaincre les autres juifs. Il lui parle. Le rabbi, il engage le dialogue avec lui, mais vous comprenez, mais vous êtes juif. Et cette capacité de parler à Philippe, d'essayer de révéler le bien que chaque juif il a en lui. Si vous regardez quelqu'un en voyant le bien qu'il a en lui, il réagit d'une manière complètement différente. Les gens, ils détestent se sentir jugés, et à juste titre. Pour pouvoir juger quelqu'un, on a besoin d'avoir tous les éléments. On n'a pas tous les éléments. Donc on ne peut pas juger. Donc, quand il y a une relation, il n'y a pas de jugement. Finalement, qu'est-ce que c'est la relation avec quelqu'un d'autre? Ou la chivyoma chazak. Essaye de faire en sorte que grâce au fait que tu l'as rencontré, alors il est renforcé. Il y a quelque chose en lui qui est plus fort. Le rabbi, il dit, regardez-le, la force de cette phrase. Le rabbi, il dit, quand deux juifs se rencontrent, il doit en sortir un bien pour un troisième juif. Chacun, il a la possibilité d'aider quelqu'un d'autre. Aider, c'est le aider matériellement, aider spirituellement. Alors, regarder un juif avec les yeux du rabbi. On dit qu'on a tous en nous un petit peu du rabbi, en tout cas grâce aux forces que le rabbi nous donne. Alors, imaginez le rabbi qui consacre des heures et des heures à s'occuper des juifs, à donner à chacun la bracha dans ce qu'il a besoin. C'est sûr que les brachot que le rabbi donne, c'est au-delà de ce que l'on peut imaginer. Il y a je me rappelle quand le rabbi distribue les larges plusieurs fois, Rav Grenier nous préparait les dollars devant nous. Donc il y avait 5 dollars déposés devant l'ami. Des fois il donnait un, des fois il donnait plusieurs. Donc il préparait 5 dollars. Donc en permanence, il y a 5 dollars qui sont posés devant l'ami. Dès que le rabbi en a donné un, il en remet un à cette place. Donc on pourrait penser, les gens ils passent devant l'ami, le rabbi va donner le premier, ensuite le deuxième. Pas du tout. Ah, il va le premier, après le dernier, après le troisième, et il revient au cinquième. C'est-à-dire que dans ce dollar-là, il y a quelque chose qui concerne ce juif. Rabbi, il voit ce que ce juif-là, il a besoin. Il arrive à lui donner ce qu'il a besoin. On pense au temps que le Rabbi a consacré au peuple juif, c'est inimaginable. Il y a une histoire de Rabbi Maharash. Rabbi Maharash, il était très malade, vous savez, il avait beaucoup de maladies. Et il y avait son shamash, le terre qui dormait dans la pièce d'à côté. Il faut au milieu de la nuit, taper le mur, la réveiller, et le chaman qui vient, et le rabbi m'arrache, il dit j'ai besoin d'un pansement sur la cuisse, j'ai besoin que tu m'aides à changer le pansement. Et donc il a commencé à l'aider à changer le pansement. Quand il enlevait le pansement, toute la cuisse était couverte de pus. Quand il a vu ça, toute la cuisse en entier, purulente, le chaman il s'est évanoui. Et donc le rabbi il a refait le pansement tout seul. Après, quand on l'a retrouvé, il a repris connaissance, le rabbi avait déjà fini de faire le pansement. Le rabbi Maharaj, il lui a dit, tu t'imagines ce que cette plaie me fait souffrir? Le rabbi Maharaj, il lui a dit, quand il y a un juif qui vient dans mon bureau et qui me pose des questions sur ce qui me concerne personnellement, et moi je dois rentrer ma neshama dans sa neshama à lui pour essayer de lui donner les réponses qui conviennent, et ensuite il sort de mon bureau, il y a un deuxième qui rentre à sa place, et à ce moment-là je dois sortir ma neshama du premier pour rentrer la neshama dans le deuxième. Rabbi dit ça me fait plus mal que la plaie purulente. Imaginez le nombre de juifs que le rabbi a rencontré dans sa vie, millions de juifs que le rabbi il a rencontré dans sa vie. Regardez le sacrifice que le rabbi il a fait de sa vie pour aider un autre juif. Alors ça, le lech lecha pour nous. La vision d'un homme, elle peut tout changer. Il y a une sikhah du rabbi précédent, c'est au début de l'écouté d'Ibourim. Quand le rabbi précédent il dit Marshava Morelet, la pensée elle peut avoir un effet contraire. Penser fortement à quelqu'un, ça peut modifier son comportement. On dit dans la chassidoute, regarder quelqu'un de dos. Donc, sauf s'il a des yeux dans le dos, il ne peut pas s'apercevoir que vous le regardez. Fixez-le dans le dos. Obligatoirement, au bout d'un certain temps, il va se retourner. Même qu'il n'a pas les yeux dans le dos, mais le fait que vous le regardez, il le ressent. Donc, au bout d'un certain temps, il se retourne. Donc le rabbi précédent, il explique une longue sikha marshava morelit. Avec la pensée, on peut faire des tas de choses. Et après, il écrit dans la sikha qu'il y avait un juif qui venait de sortir de Russie. Et il dit au rabbi précédent, il dit, je ne comprends pas tout ce que vous venez d'expliquer, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Et le rabbi précédent, il lui dit, où t'étais l'an dernier? Ça veut dire que le rabbi précédent, il est arrivé à le faire sortir de Russie en pensant à lui. Encore une fois, c'est des choses qui existent chez les bébés, chez nous. Et on aurait pu ne pas nous raconter cette histoire. On aurait pu ne jamais savoir cette histoire. Elle s'est passée. Donc le fait qu'on a connaissance de cette histoire, c'est que quand même ça nous concerne d'une certaine façon. La pensée, elle peut tout changer. Avoir une pensée positive sur un juif, ça peut tout changer. Et là, on raconte aussi, on dit, et sans doute en parlant de cette histoire, tu as vu le rabbi précédent, quand il était aux États-Unis, il était aussi très malade. Il y avait une infirmière qui était là-bas pratiquement à plein temps. L'appartement du rabbi précédent, c'est au premier étage, pour ceux qui connaissent, le bureau du rabbi, il est au rez-de-chaussée. Et donc, une fois, l'infirmière, elle, elle descend l'escalier à toute allure. Elle dit le rabbi précédent, il a perdu connaissance, il faut qu'on appelle un médecin. Alors le rabbi il est sorti de son bureau, il a dit attendez avant d'appeler un médecin, je vais voir ce que je peux faire. Et le rabbi rentre dans le bureau du rabbi précédent, dans la chambre du rabbi précédent. Il voit que le rabbi précédent il bouge les lèvres. Quand il bouge les lèvres, c'est qu'il n'a pas complètement perdu connaissance. Et le rabbi s'approche du rabbi précédent, il penche la tête, il écoute, et il s'aperçoit que le rabbi précédent il murmure Az Yashir Moshe Ibn Israël et Tachira Azot. Et donc le rabbi précédent, il a dit toute la Shira une fois. Ensuite, il a recommencé au début, il a dit la Shira une deuxième fois. Puis il a recommencé encore, il a dit la Shira une troisième fois. Et après, quand il a dit la Shira la troisième fois, il ouvre les yeux, il fait un grand sourire, il dit bon, Hachem, ils sont tous passés. À ce moment-là, il y a un groupe de chassidim qui sortait de Russie. Donc, pour les accompagner, le rabbi précédent, il disait Az Yashir. C'est ça qui les a fait passer. Donc, après, le rabbi a ouvert les yeux au moment où tous ceux qui devaient passer, ils sont touchés. Donc, ça veut dire que, voilà, une pensée du rabbi, ça peut tout changer. Et pourquoi nous, on le sait, pour qu'une pensée à nous, elle change tout. Ça, c'est l'objectif qu'on doit se fixer ce soir. C'est qu'on regarde le monde différemment. Et bien que le monde n'est pas objectif. Prenez deux personnes qui ont vécu le même événement. Un, il va vous dire, voilà, c'était difficile, et j'ai souffert, et j'en parle plus. Et l'autre, il va dire, c'est facile, il n'y avait aucun problème. Mais l'histoire, une fois un juif il a été voir le Magid de Mizritch et il a dit moi j'ai beaucoup de mal à accepter les souffrances que Dieu m'envoie. Je ne sais pas comment on peut faire pour accepter les épreuves et les difficultés avec sérénité, moi j'arrive pas. Alors le Magid de Mizritch il a dit regarde dans la choule, il y a un juif qui s'appelle Rabbi Zushi de Anipoli. Ce juif-là, il a tous les problèmes que tu peux imaginer. Il a des problèmes de parnassa, il a des problèmes de santé, il a des problèmes avec sa femme, il a des problèmes avec ses enfants. Il n'y a pas de problème que tu peux imaginer que lui, il n'a pas. Alors, on va le voir, et lui, il va t'aider. Alors, ce juif-là, il va voir Rabbi Zushi de Anipoli qui est assis dans la choule en train d'étudier. Il a dit, voilà, le rabbi, il a dit que vous pouvez m'aider. Moi, je peux vous aider, moi, j'ai pas de problème. Je suis heureux. Bon, dans ma vie, j'ai pas de problème. Alors, ça veut dire que bien souvent, un problème, on l'aggrave, on le regarde d'une façon plus noire. Et à ce moment-là, il devient réellement plus noir. Donc, c'est ça ce que Dieu il attend de nous. Il faut changer de lunettes. Regarder le monde d'une manière que les problèmes ils soient plus réellement des problèmes. Et à ce moment-là, Dieu il fait que les problèmes disparaissent. Donc on va demander à Dieu qu'il nous aide, que nos yeux ils regardent les choses telles qu'elles sont réellement, et qu'on oublie les problèmes et les difficultés. On regarde un juif tel qu'il est dans la pensée première de la création, on regarde le monde entier tel qu'il est dans la pensée de la création, et ça c'est sûr que ça va tout changer. Lui, il nous dit, qu'est-ce que ça veut dire ? Crash de Rochot, crash de Miraglo, ça veut dire qu'un juif, il n'est pas fait pour se chier. Dieu, il n'a aucune raison. Thank you. on est devant une situation anormale. Merci. Qui a pour but de faire passer un message à un juif. Et donc, Rabbi nous dit, quand quelqu'un a mal à la tête, il a mal aux pieds, il va étudier la Torah. Alors, la Hashgacha pratique de Dieu, c'est que même la feuille morte fait un nombre de tours avant de se poser sur le sol. La Hashgacha pratique de Dieu, il va faire qu'on va tomber juste sur le livre dans lequel il y a le message que Dieu il veut lui faire passer. Et donc, s'il sait capter le message, s'il sait déchiffrer et qu'il met en pratique ce que Dieu lui demande, alors à ce moment-là, le mal de tête, il s'en va, parce qu'il n'a plus de raison d'être. Je me rappelle une fois, j'ai traduit une lettre du rabbi, tout c'est des points traduits, il se met à trembler. On sent que là, il y a quelque chose. Le rabbi dit dans cette lettre, inimaginable, ce que le rabbi m'arrête à écrire. Le rabbi lui dit, vous me demandez pourquoi tel malheur que vous est arrivé. Le rabbi dit, il y a deux catégories de gens qui m'écrivent. Il y a des gens qui m'écrivent pour tout ce qui leur arrive, pour des choses bien, comme pour des choses mauvaises. Il y a des gens qui m'écrivent que pour des malheurs. Quand c'est quelque chose de bien qui arrive, là on ne pense pas à m'écrire. Mais quand il y a un malheur qui arrive, à ce moment-là, là on m'écrit et pourquoi ça m'est arrivé, etc. Alors Rabbi dit, vous faites partie de la deuxième catégorie. Et donc Dieu il voulait que vous m'écriviez. Il n'y avait pas d'autre moyen de vous faire m'écrire que de vous envoyer un malheur. C'est-à-dire que des fois on s'imagine, il m'est arrivé telle chose, parce que le rabbi te dit non, c'était arrivé pour une raison que complètement différente de ce que toi t'as pensé. Le rabbi a dit une fois dans un Fabringen, il a dit un juif m'a écrit, et il m'a dit, vous m'avez demandé de fermer le business flat, et heureusement je ne vous ai pas écouté, parce que j'ai eu besoin d'aller chez le dentiste et il a fallu que je refasse toutes les dents. Et si je n'avais pas eu le chiffre d'affaires du Shabbat, jamais je serais arrivé à payer le dentiste. Et le rabbi, il dit, ça ne lui vient même pas à l'esprit que si le magasin était fermé Shabbat, il n'aurait pas eu besoin d'aller chez le dentiste. Lui, il pense qu'il va chez le dentiste parce qu'il a mal aux dents. Pas du tout. Il va chez le dentiste parce qu'il y a un trop-plein dans la poche et qu'il faut trouver le moyen de retirer le trop-plein. Il peut être un dentiste, le contrôle fiscal, tout ce que vous voulez, mais en réalité, c'est tout bien, tout est dans les mains de Dieu. Donc, le rabbi nous dit, sache décrypter le message. Donc ça, c'est clair qu'on étudie la Torah, parce qu'on a besoin d'avoir la connaissance de la Torah. On étudie la chassidoute parce qu'il faut connaître la chassidoute. Maintenant, imaginez que le rabbi dit une sicha, et au moment où le rabbi dit une sicha, alors il arrive à la dire pour tous ceux qui l'écoutent au moment où il dit cette sicha, et pour tous ceux qui vont l'étudier par la suite. La Hashgacha pratique de Dieu, elle fait que dans cette sikha, il y a un message qui est adressé à tous les juifs qui vont avoir connaissance de cette sikha. Il y a des juifs pour lesquels cette sikha est donnée un message, et ils n'ont jamais étudié. Donc quand leur main ira vers la bibliothèque, ils vont tomber vers le volume d'à côté, à gauche, à droite. Ce volume-là, les juifs ne leur donnent pas un message. Ils n'étudieront pas cette sikha. Donc, en dehors de la nécessité d'étudier la Torah et de connaître la Torah, dites-vous, dans cette sikha, le rabbi, il me parle à moi. Le rabbi s'adresse à moi. Tout d'un coup, la sikha que vous étudiez est complètement différente. Il y avait une fois, il y avait le, il y avait un opticien. Il s'appelle, il a encore son magasin là-bas, il s'appelle Ritinski. On voit pas, on est bien. Donc, une fois, il reçoit un coup de fil du secrétariat du Rabbi, et on lui dit le Rabbi a cassé ses lunettes, venez vite, il faut lui faire une paire de lunettes. Donc, on lui teste, on lui prend trois montures. Il va à 770, il rentre dans le bureau du Rabbi, il dit voilà, vous apportez deux ou trois voitures. Le Rabbi lui donne les lunettes cassées, il lui dit on fait exactement la même chose. Les mêmes verres avec la même monture. Donc il repart dans son magasin avec les lunettes cassées, et donc il y a les verres du Rabbi. Les tisseurs, ils ont des machines qui permettent d'analyser le degré de correction. Donc il prend les verres, les lunettes du Rabbi, les met dans sa machine, et il voit, c'est du verre de vitre.
C'est transparent.
Aucune correction. Le Rabbi met ses lunettes, il ne les met pas, il voit exactement le même. Après le Rabbi met les lunettes, il y a un membre de l'Admour Al-Tsaï. L'Admour Al-Tsaï nous dit un tzadik, il a Ria Klalit et Ria Pratit. Ria Klalit, ça veut dire qu'il voit tout le monde en général, il s'adresse à tout le monde globalement. Ria Pratit, ça veut dire qu'il s'adresse à une personne en particulier. Alors, vous voyez que par exemple, en Yechidut, le Rabbi reçoit quelqu'un, il s'adresse à cette personne-là en particulier. En Yechidut, le Rabbi il est toujours les lunettes. Le Rabbi il allait à l'OL. Quand il allait à l'OM, il lisait les lettres qu'on lui avait envoyées. Au moment où il lisait les lettres, il avait des lunettes. C'est bien pratique. Il lit la lettre de la personne précise qui lui a écrit. Au Fabringen, quand le rabbi faisait Fabringen, on n'avait jamais vu le rabbi avec des lunettes au Fabringen. Le rabbi dit une sira au Fabringen, il s'adresse à tout le monde. Tous ceux qui entendent ce que le rabbi dit, ils savent que ce que le rabbi dit, ça les concerne. Il y avait le Ben Sion Shem Tov, un des vieux chassidim, c'est le beau-père du rabbi Moulin-Zimov. Il a raconté que, il a dit qu'en 1947, le rabbi est venu à Paris pour chercher sa mère, et donc il était à un hôtel à l'opéra. Il y avait des gens qui allaient le voir dans sa chambre, et une fois il appelait trois chassidim, et il avait quelque chose à dire à chacun des trois. Et donc le Ben Sion Shem Tov, c'était un des trois. Et donc tous les trois, ils rentrent, je crois que c'était pas dans la chambre du rabbi, c'était dans le lobby de l'hôtel, il y avait des petites pièces, et donc ils sont rentrés tous les quatre dans une des petites pièces. Et donc le rabbi, il parle à Ben Sion Shem Tov, il était assis au milieu, il y avait les deux autres, un à gauche, un à droite, et le rabbi le regarde, et il lui parle, et il a dit, il voit qu'au moment où le rabbi lui parle, les deux autres, ils s'endorment. Vous voyez des coups de coude pour les réveiller, et les autres ils dorment profondément. Et le rabbi lui parle, et après, quand le rabbi finit de lui dire ce qu'il a à lui dire, il se tourne vers celui qui est à droite. Au moment où il se tourne vers celui qui est à droite, le rabbi Shem Tov il s'endort. Il dit mince, il ne faut pas que je dorme, j'ai vu comment. C'est moche comment les deux autres ils dorment dans le rabbi, il ne faut pas que moi je m'endors. Et elle dit 10 secondes après il dormait, et il s'est réveillé au moment où le rabbi a fini de parler aux deux autres. Ça veut dire que le rabbi il a parlé à chacun, en disant à chacun ce qu'il avait à lui dire, et les deux autres ils n'étaient pas concernés, ils n'ont pas entendu. Donc c'est ça le Fabringen. Le rabbi dit quelque chose, dès l'instant où quelqu'un entend une sikha, la connaissance de cette sikha, même de nombreuses années après qu'elle ait été dite, ça veut dire qu'il est concerné par cette sikha. Il y a nécessairement dans cette sikha un message pour lui. Sinon, la sikha ne serait pas parvenue jusqu'à lui. Donc là, c'est aussi un point important, ça fait aussi partie du lech lecha. Vous essayez avec un sikha, avec un mahamar, avec un texte du rabbi, avant de commencer à étudier, dites-vous, le rabbi, il s'adresse à moi personnellement. Tu n'étudies pas un texte standard qui a été fait pour tout le monde, que tout le monde peut étudier de la même façon. Au moment où le rabbi, il a dit ce texte, il a pensé à moi précisément. Là, vous l'étudiez d'une façon complètement différente. Mais une fois, il y avait une femme qui est venue au Betrabad et elle m'a dit opération en cœur vert, j'ai très peur, il faut aller voir le rabbi, il faut lui demander une bracha. Alors que c'était l'époque où il n'y avait plus de yéchidout personnel, et donc le rabbi recevait un groupe. Il disait une sikha devant un groupe. Et après, donc elle revient à Paris, elle revient au Betrabad, elle dit voilà, j'étais chez le rabbi, mais le rabbi, la parole, il dit j'ai rien compris du tout. Et j'ai aussi peur qu'avant parce que j'ai pas vu la bracha que le rabbi m'a donnée. Alors j'ai dit là, on va étudier le texte de Yechidout. Donc on étudie les derniers mots que le rabbi il a dit dans cette sikha. Ul ovdo bilvav shalem. Servir Dieu avec un cœur entier. Évidemment, elle n'a pas remarqué, elle n'avait pas remarqué. J'ai regardé tous les yéchidout des groupes qui étaient imprimés jusqu'à ce jour-là. Cette expression-là, ou l'ovdo bilvav shalem, n'a jamais été employée jusqu'à ce jour-là. Cette femme-là, elle avait besoin d'une bracha. Elle était convaincue qu'elle n'avait pas eu la bracha. Le rabbi, il a dit, mais la bracha. Pas le rabbi, il donne clairement la bracha. Et on ne s'en aperçoit pas. Une fois, il y a quelqu'un qui est venu. Évidemment, on passait au dollar. Mais il y avait la cassette, l'enregistrement. Une fois, quelqu'un il m'a dit, tu peux m'aider. Le rabbi m'a parlé en yiddish, j'ai rien compris. On a pris la cassette vidéo, on l'a passé. Le rabbi, il a parlé intégralement en français. Voilà, tu te mets dans la tête, le rabbi parlait, il dit, j'ai rien compris. Tu t'es mis dans la tête, t'as rien compris. Donc ça veut dire que si on décide que le rabbi m'a parlé à moi, que je peux réellement comprendre, à ce moment-là, on voit les mots du rabbi complètement différents. Donc nous, je me rappelle que quand le rabbi a eu 70 ans, il allait finir un chèque de cuisine. Rabbi a commencé le Fomanien et il a dit plusieurs personnes m'ont demandé si j'ai l'intention de prendre ma retraite. Donc je voulais vous dire que j'ai aucune intention de prendre ma retraite, que j'ai encore beaucoup de dossiers desquels je compte m'occuper et que j'ai encore beaucoup de choses à faire. Ah voilà, c'est nous la retraite, elle n'existe pas, c'est nous la jeunesse, elle dure. Après, il y a des gens qui sont nés vieux.
Je te figurais, il a raconté une histoire. Une fois qu'il a tapé une porte pour faire une soirée comme une grande barre blanche, il l'a regardé à l'œil. Il a dit à qui est-ce veneur ? C'était le gars qui avait la grande barre blanche. Il dit jeunesse ou pas riche ? Le gars, je vous le rappelle, il a quel mois ou quoi ?
Jeunesse dans la tête. Il y avait mon fils, il m'a raconté, il étudiait à 770.
au début du mois d'Elul,
les Bachurim de l'Yeshiva, ils ont dit on va essayer de faire quelque chose pour préparer la Sicherie. Et donc ils ont dit on va proposer à tous les balais bâtiments de Kronheitz, si quelqu'un il veut fixer une corde d'état avec un Bachur de l'Yeshiva, à l'heure qui lui convient, sur le texte qui lui convient. Voilà. Pendant tout le mois des Louls, pour pouvoir se préparer à Tichet. Et donc, ils ont sorti des milliers de papiers, ils ont mis dans toutes les boîtes aux lettres à Kronheitz. Et ils ont eu quatre réponses. Une des quatre réponses, il y avait à l'époque le Rav Ritrit. À Kronheitz, 104 ans. Lui, il a étudié à l'Yeshiva à Lubavitch, en Russie. Et après, on lui propose d'étudier avec un Bachor de l'Yeshiva, qui se prépare à la Tichrie. Il envoie le coup en réponse en disant je vais étudier avec un Bachor. Ah voilà, il n'y a pas d'âge. Et lui, la mina de son petit-fils. Son petit-fils, il a fait la mina en 1952. Et à l'époque, le rabbi était Sandak, comme on l'appelait dans les milotes, il venait même dans les maisons. Alors la mina, c'était à la maison. Quand il y avait une grande maison sur l'Empire. Il lui raconte toujours, il dit le rabbi est arrivé pour être syndac à la mina. Et le rabbi met la main sur la mezouza, il retire la main et il dit il faut la vérifier. Et après la mina,
scanner.
Ils ont ouvert la mezouza.
Scanner. Bah, évidemment.
Moi, je me rappelle l'année où j'étais là-bas. C'est ça. Le rabbi venait à la yeshiva pour voir le seder des Bachorim. Et donc avant de rentrer dans le zal, là où les Bachorim faisaient le seder, le rabbi rentrait dans la cuisine. Non, c'est là-bas, je me rappelle. Le rabbi rentre dans la cuisine, il y avait le robinet de la cuisine, sur lequel ils avaient mis un gros filtre pour que ça. Donc le robinet était entièrement et le rabbi, il voit le robinet, il montre comme ça du doigt, il faut le vérifier. Après, quand le rabbi est parti, on a ouvert le filtre, il y avait un verre de terre grand. Et à l'intérieur, c'est rentré à l'intérieur du filtre. Il est entièrement fermé, il a envie de le faire. Il faut vérifier. C'est incroyable, en bas des choses comme ça. C'est bien. Ouais. Voilà, mon avis n'est pas limité par les limites de la nature. Le rabbi, il met cette capacité à la portée de chacun. Je veux dire que, bien que. De nos jours, on a la possibilité d'étudier la Torah avec une profondeur que dans les autres générations n'avaient pas. Il y a beaucoup de connaissances profondes de la Torah qui ont été diffusées de telle façon que tout le monde pouvait avoir accès. On peut arriver à prier, on peut arriver à faire des tas de choses avant c'était difficile. De nos jours, il y a énormément de capacités qui ont été développées. Rabbi, il a vraiment révolutionné la vie juive. Rabbi, il a mis à la portée de tout le monde des choses qui étaient vraiment au préalable réservées à une élite. La première chose, c'est qu'il faut s'attacher au Rabbi. Il faut regarder les enseignements de Rabbi. Il faut que chaque fois qu'on fait quelque chose, le Rabbi demande de le faire. Quelle instruction le Rabbi a donné dans ce domaine-là particulier. Pas une punition, c'est pas pour faire plus dur, c'est un moyen de dévoiler toutes les bras. Plus on, on s'attache à la bracha, on est sûr que la bracha se dévoile. Voilà, il reste sûrement quelques jours de l'exil, c'est quelques jours de trop, quelques secondes. Il faut que ces secondes-là, on les utilise pour faire un maximum de mitzvot pour soi-même, s'occuper d'un grand nombre d'autres juifs, étudier des sikhot, étudier des mahamarim. Rabbi nous dit que une sikha, c'est vraiment un enseignement fondamental du Rabbi. Rabbi nous dit on dit que le Mashiach va venir une seconde à l'heure. On dit que le monde il est prêt, que le monde il a été entièrement transformé, que le monde il est prêt pour la venue du Mashiach. Le Rabbi dit faire attention, à distinguer la dimension globale de la dimension individuelle. Au niveau global, au niveau collectif, tout ce qu'on devait faire pour faire venir le Mashiach, ça a été fait. Et donc, ça veut dire que le Mashiach peut effectivement arriver d'une seconde à l'autre, parce que tout ce qui était nécessaire, tous les préalables nécessaires pour la vie du Mashiach, ils ont déjà été accomplis. Après, le Rabbi nous dit, au niveau individuel, une mitzvah de plus, une action positive de plus, un juif à qui on dit un mot, ça peut modifier complètement la perception du Mashiach. Il ne faut pas croire que le Mashiach va se dévoiler pour tout le monde de façon identique à un pasouk qui dit « Kulam yedru oti limikatnam ve'adibolam ». Donc « yedru » c'est « da'at ». Dans la chassidut, on explique que « da'at » c'est le plus haut niveau de connaissance que l'homme peut atteindre. « Oti » c'est « atzmut ». L'essence de Dieu, elle se dévoile dans le monde, et tout le monde arrive à percevoir l'essence de Dieu dans une façon de da'at, plus haut niveau qu'on peut l'imaginer. Et après, le passou qui dit « Emikatnam ve'adolam ». Oui, c'est difficile à comprendre. Si l'essence de Dieu, elle est dévoilée dans le monde, et que tout le monde peut arriver au niveau de da'at, alors comment on fait la différence entre les Ktanim et les Gdolim? Alors voilà. Ça veut dire que quand Mashiach viendra, il y aura encore des Ktanim et des Gdolim par la préparation qu'on a eue dans les dernières secondes avant le Mashiach. Une mitzvah de plus, ça peut transformer une perception petite en une perception grande. Une mitzvah de plus, une sikha qu'on étudie en apprenant la lettre. C'est pas difficile de prendre une sikha à la lettre. Vous ouvrez la boîte aux lettres, vous trouvez une lettre, un juif, n'importe qui, il a pris la peine de vous écrire. Ne mettez pas immédiatement la lettre à la poubelle. Prenez le temps de la lire. Quelqu'un m'a écrit, je veux savoir qu'est-ce qu'il m'a dit, pourquoi il m'écrit, qu'est-ce qu'il a à me dire. Donc le rabbi, il n'est pas moins que ce bonhomme-là qui vous écrit et qui vous a mis une lettre dans votre boîte aux lettres. Le rabbi, il a dit une sikha, et la sikha, elle est arrivée dans vos mains. Dire que cette sikha, elle vous concerne. Donc, prenez la sikha en disant, le rabbi me parle à moi. Qu'est-ce que le rabbi me dit à moi maintenant? Et là, vous lisez la sikha d'une façon complètement différente. J'ai entendu une belle histoire. Une fois, il y avait un bonhomme. Un bonhomme qui a dit, et donc, lui, il disait, voilà, il y a des gens, ils ont des réponses du rabbi dans les gros prodèges. Et chez moi, ça marche jamais. Moi, chaque fois que je me pose une question, je mets une lettre dans les gros prodèges. À chaque fois, je tombe sur une lettre qui tombe à côté. Chez moi, ça marche jamais. Et après, une fois, il s'est dit, tiens, j'ai vraiment une question, vraiment, il faut à tout prix que le rabbi me réponde. Alors il a commencé, il a été au mikvé, il a prié avec Kavana, il a mis ses habits de Shabbat, il écrit au rabbi, il met la lettre dans les gros kodesh, il tombe à côté. Aucune réponse. Il était complètement découragé. Alors, il va voir son mashpia et il dit, tu vois, ça marche pour tout le monde, et chez moi ça marche pas. Alors, m'inspire, il dit, regarde, t'as trouvé, t'es tombé sur une lettre de Yvok Kodesh, tu l'as bien étudié. Ouais, je l'ai lu comme ça, j'ai vu que le rabbi n'a pas du tout répondu à la question que je lui ai posée. Alors, ils ont, viens, on va étudier la lettre ensemble. Alors, ils étudient le premier paragraphe. Et m'inspire, il dit, alors, ça dit quelque chose, ça. Bien sûr, ça me dit quelque chose. C'est une chose que le rabbi m'avait demandé de faire à l'Ichidout. Je l'ai fait, hein, j'ai compris. Alors voilà, écrit au rabbi. Et tu demandes quelque chose au rabbi, et le rabbi n'a pas le droit de te rappeler que ce qu'il t'avait demandé, tu l'as toujours pas fait. Oui, c'est vrai, t'as raison. Le rabbi m'a demandé, et j'ai rien fait. Et donc, il sort de chez son HPA, il va à 770, et il s'assoit dans un coin, et il dit, il faut que je fasse, tu vois. Rabbi m'a demandé en Yechidout de faire quelque chose. Alors, les années sont passées, je n'ai rien fait du tout. Il commence à réfléchir à comment je peux réparer toutes ces années que j'ai perdues où je n'ai rien fait. Pendant que il est dans son coin en train de réfléchir, un bachur de Yeshiva, il vient, il dit, regarde, il y a une lettre de Yigot Kodesh, tu peux m'aider à la traduire. Il traduit la lettre et trouve la réponse à sa question.
Ah, c'est le mec qui m'a dit.
Donc ça veut dire que il faut se poser la question. Le rabbi me parle. Est-ce que moi j'arrive à décrypter ce que le rabbi me dit? Après, si j'ai pas fait, et le rabbi a le droit de me dire que t'as pas fait.
Hein?
Si c'est le ça va. Ça veut dire que on est encore au début de l'année. On poursuit encore le Mont-Cheshvan, que le Rabbi a dit, Shabbat Noir, c'est la dernière étape de Yaakov Alach Lebarko. Parce que Shabbat Noir, ça veut dire que quand on arrive, on est en contact avec les difficultés du monde, et ouais, en Kishri, c'était facile et tout. Après, on retrouve le contact du monde. Et là, on dit, mince, c'est pas si facile que ça, finalement. Alors le rabbi nous dit, voilà, de Yaakov Alach Lebarko, c'est aussi Shabbat Noir, tu rentres dans une teva, même si dehors il y a le déluge, toi tu es à l'intérieur de la teva, tu es protégé de tout ce qui se passe à l'extérieur, toi tu marches, tu avances dans la teva. Donc voilà, Dieu il nous ajoute un Fabringen, un Natania, Shabbat Lach Lecha, dans la semaine de Parshat Lach Lecha. Donc Dieu nous dit, voilà, ouais, maintenant il faut aller de l'avant. Et après voilà, on a toute une boîte à outils pour arriver. On voit le rabbi des sirotes, des mamarim, on peut utiliser tout. Et puis après voilà, on a la certitude que le rabbi nous donne que toutes les difficultés, c'est pas des difficultés. Et que finalement on va y arriver. C'est du Dieu. Il y a le Rav Krinsky a raconté une histoire il n'y a pas très longtemps. Il a dit quand le Rabbi a perdu sa mère, Rachid Khafedi, en 1964. Et donc le premier anniversaire de sa mère, c'était Vafti Shri Tafshin Khavav, en 1965. Et donc cette année-là, c'était un vendredi. Et le rabbi a voulu aller à l'OL, à Kever de sa mère. Et donc c'était vendredi après-midi. Et le Rav Krinsky raconte, il dit le rabbi prenait son temps. Voilà, Shabbat il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Et le rabbi est sorti de l'OL, c'est déjà vraiment tard. Et ils arrivent devant la porte du cimetière, fermée à clé. Et une deuxième porte de l'autre côté, fermée à clé. Alors ils téléphonent, déjà à l'époque ils avaient un téléphone de voiture. Donc ils téléphonent aux policiers qui étaient devant le cimetière. Désolé, mais on ne peut rien faire pour vous. On n'a pas les clés du cimetière. Il appelle le gardien du cimetière. Le gardien lui dit, ah non, monsieur, vous, David, pas l'intention de revenir. Et donc, qu'est-ce que je fais? le rabbi il est là, je dois rentrer à la semaine tranquille avant Shabbat. Et il a dit ce qu'il a choqué le plus, il faut le rappeler avec un grand sourire, pas du tout angoissé. Quand il réfléchit, qu'est-ce que je fais maintenant? Tout d'un coup, il s'est dit, dans le coffre de la voiture, j'ai une boîte à outils. Il a démonté la porte. La porte du cimetière, ça fait tant, c'est une grosse porte. Il a démonté la porte, et après il regarde l'heure, il dit on a exactement le temps qu'il faut pour rentrer à 770. Il a dit s'il y a n'importe quoi, un embouteillage, un problème, un accident, un truc, qu'est-ce que je fais? Il y a le rabbi dans la voiture, moi je suis au milieu de la route, qu'est-ce que je fais? Et il a dit pendant tout ce temps-là, le rabbi avec un grand sourire. Et donc il conduit jusqu'à 770, ils arrivent à 770, à la minute pile de l'entrée du jardin. Et le rabbi fait un grand sourire. Tu vois, on est arrivé. Ça veut dire que le rabbi n'a pas de problème. Donc il faut marcher avec le rabbi, il faut mettre les problèmes de côté, il faut arrêter de penser à toutes les choses négatives, il faut penser que aux choses bien. Et voilà, à ce moment-là, Dieu il enlève les choses négatives parce qu'elles n'ont plus raison d'être. Il ne reste que le bien, et à ce moment-là, on peut très bientôt voir le rabbi avec nos yeux. Amen. Tu as raison qu'on attend Mashiach. Amen.